Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission de Vivante Église. Aujourd'hui, c'est l'héritage spirituel des moines de Tibérine et des martyrs d'Algérie en compagnie de mon invité Marie-Dominique Minassieu. Le 21 mai 1996, sept moines trappistes de Tibérine étaient assassinés en Algérie. Leur mort a profondément bouleversé l'ensemble de la communauté internationale, mais au-delà du drame, ce sont leurs écrits, leurs prières et leurs méditations qui continuent aujourd'hui de nourrir des générations entières. C'est pour préserver et partager ce trésor que mon invitée, Marie-Dominique Minassieu, docteur en théologie et chercheuse à l'Université de Fribourg, consacre une grande partie de son travail. Depuis 2017, elle est responsable du comité scientifique chargé de publier l'intégralité des écrits des moines de Tibérine, une collection éditée par le CERF, Bayard et l'abbaye de Bellefontaine. Le plus récent volume, intitulé « Heureux ceux qui cherchent la paix, vivre désarmé », est paru en 2025. Depuis 2023, Marie-Dominique Minassieu a élargi ses recherches aux 12 autres martyrs d'Algérie, béatifiés à Oran en 2018 et en particulier aussi religieuses avec rigueur scientifique et une profonde sensibilité spirituelle. Elle nous permet d'entrer dans la richesse de ces textes qui ne sont pas seulement que des mémoires, mais aussi semences d'espérance et d'avenir. Bonjour Marie-Dominique Minassieu.
Bonjour Nathalie.
Ravie de vous accueillir pour cette émission de Vivante Église. Le cœur, le poumon de cette émission, ce sont bien sûr ces moines trappistes. On fêtera en mai 2026 les 30 ans cette histoire. Pouvez-vous nous raconter en introduction l'histoire de ce livre « Heureux, ceux qui cherchent la paix, vivre désarmé ». Vous avez une petite histoire à nous raconter en introduction.
En fait, ce livre, il est sorti, il devait sortir justement pour le 21 mai de cette année et je l'ai reçu en avant-première. Voilà, c'est pas si souvent pour un auteur, mais je l'ai reçu en avant-première et c'était très émouvant parce que je l'ai reçu au soir du 8 mai de cette année, qui était donc le soir de l'élection du nouveau pape. Et j'ai vraiment eu une jubilation intérieure parce que d'abord j'étais personnellement convaincue que en ce jour de fête où on faisait mémoire des mémoires liturgiques des 19 martyrs d'Algérie, j'étais persuadée que nous aurions un nouveau pape qui nous en ferait le cadeau et j'ai été récompensée. Et en fait, je tenais en main ce livre. Et quand j'ai entendu le pape s'adresser à nous depuis le balcon et nous souhaiter la paix, et cette paix désarmée et désarmante, ben j'ai vu un écho au titre de ce livre que nous venions de terminer et qui allait sortir donc en librairie quelques jours après. J'y voyais un immense signe de la part du pape, de notre nouveau pape, qui finalement, après le pape François, qui avait béatifié ces 19, eh bien, qui reprenait presque les mots mêmes d'un Christian de Chergé, qui avait fait cette prière les derniers temps, hein, « Désarme-les, désarme-moi, désarme-nous ». Donc vraiment un écho tellement lumineux que j'en ai eu vraiment une très grande joie et j'ai été vraiment encouragée comme l'ensemble de ceux qui se penchent sur ces écrits. J'ai été encouragée dans ce que nous faisons depuis tant et tant d'années.
Alors, quelle est un peu l'histoire personnelle, permettez-moi, Marie-Dominique Minassieu, avec ces moines de Tibérine et au fond, cette histoire qui nous vient aussi d'Algérie et puis le témoignage que nous gardons. Je parlais d'héritage, mais c'est un héritage pour aujourd'hui et puis pour demain.
En fait, en 1996, je n'étais pas dans la foi. Et donc, j'ai appris la nouvelle un petit peu comme tout le monde, à la radio. Et puis je me suis agacée qu'on fasse toute une histoire avec la mort de ces moines, quand on avait assassiné dans la quasi-indifférence des enfants, des femmes, des Algériens, des Algériennes, bref. Je me dis, mais enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu toucher à des moines ? Voilà, ça ne rentrait pas dans ma tête et dans mon cœur. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu une expérience spirituelle très forte qui m'a amenée à me poser des questions. Et encore quelques semaines plus tard, j'ai fait un week-end de retraite sans savoir que j'atterrissais dans la même famille spirituelle que ces moines. Et encore quelques semaines plus tard, et là nous sommes seulement à la fin de l'année 96, j'ai décidé de faire un stage en clôture. J'étais donc dans une trappe féminine. Et en fait, c'était exactement au moment où l'abbé général des trappistes, dont Bernardo Oliveira, faisait la relecture des événements à travers une lettre circulaire qui était lue en chapitres dans les trappes du monde entier. Et on commençait justement à déballer en fait les affaires des frères et à découvrir ce trésor des écrits. J'en ai été littéralement bouleversée. Donc j'avais eu à la fois ce bouleversement dans ma vie et tout à coup ces témoins qui me rejoignaient 6 mois après au creux de cette trappe, et ça m'a tellement bouleversée que j'ai voulu intégrer la vie monastique pour le premier anniversaire du martyre de ces moines. Donc vous voyez, on dit que les martyrs sont semences de chrétiens. Personnellement, cette histoire m'a bouleversée au plus haut point et continue d'être aujourd'hui finalement un soleil pour moi chaque jour, puisque je suis à plein temps à travailler sur ces écrits.
À plein temps, et puis en préparant un peu cette rencontre du jour dans ce Vivante Église, ce sont un peu vos compagnons de route.
Complètement.
C'est ce que...
Complètement, avec cette joie. Alors, parmi eux, ils étaient 7.
Hein, on va en parler.
Voilà, ouais. Parmi eux, il y avait frère Christophe. Et c'est lui qui est rentré en premier.
En premier, voilà. Quelle a été un petit peu la porte d'entrée pour qu'il vienne un petit peu vous cueillir, vous saisir vous séduire peut-être, hein.
Complètement, mais je crois que ce sont ces mots de poète qui m'ont rejointe, qui ont rejoint mon désir de me donner à mon tour. Et en fait, frère Christophe est devenu une longue histoire, puisque j'ai fait mes travaux universitaires sur lui. Toutes mes études de théologie ont été marquées par lui. Et j'ai fait ma thèse de doctorat sur ses écrits, une théologie du don. Frère Christophe, une théologie du don. Donc tout un itinéraire avec lui, oui.
Oui. Vous parliez dans vos petites histoires et en ces débuts d'émission de notre nouveau pape, hein, mm-hmm. le pape Léon, donc élu le 8 mai, qui est le jour de la mémoire liturgique des moines de Tibérine. Il y a eu aussi une retraite, hein, cette grande retraite en Italie avec une exposition. Vous pouvez en dire deux mots. C'était un moment aussi important de travail qui relatait un peu tout cet héritage.
Oui. Tout récemment, donc, le mouvement Communion et Libération organise une très grande rencontre qui rassemble sur 6 jours des dizaines de milliers de personnes, en fait entre 800 000 et 1 million de personnes, la plus grande rencontre en Italie. Et parmi les 15 expositions qui étaient présentées, il y avait une exposition dédiée aux 19 martyrs d'Algérie. Donc j'avais été invitée à participer au comité scientifique de cette exposition. Et puis des événements ont été conçus autour, de manière à pouvoir entrer en communication directe avec tous ces gens, partager cette histoire à travers des témoins aussi. Et ça a été une expérience merveilleuse, avec également une projection du film « Des hommes et des dieux », avec la participation du producteur et scénariste du film. Ça a été vraiment un temps fort. Et nous avons eu la surprise, au cours de cette rencontre, d'avoir un message adressé par Léon XIV qui exprimait, qui pointait parmi toutes ces expositions, eh bien celle des 19, et qui soulignait combien les 19 martyrs d'Algérie représentaient finalement un modèle de mission par ce dialogue de vie, cette présence. Et c'est vrai que nous avons été finalement doublement récompensés de tous ces efforts, en voyant d'une part le succès qu'avait remporté finalement cette exposition, extrêmement visitée, 15 000 personnes sur 6 jours, et vraiment les échos bouleversés que nous avons reçus à travers ceux qui l'ont visité. Donc un encouragement de notre pape Léon à la suite du pape François, pour nous, c'est voilà, le rayonnement universel qui commence d'une certaine manière.
Donc, une fécondité planétaire.
Oui.
De cette vie aussi, et de ces vies, ces 19 vies. Si vous permettez, on a peu de temps, mais on va essayer de revenir un peu sur ces hommes et ces femmes. On parle aussi de six religieuses qui étaient, en quelques minutes, c'est très court bien sûr, mais on lira les ouvrages. J'invite les auditeurs aussi à lire. On écoute la radio, on regarde la télé parfois, mais il est encore possible d'acheter des livres pour lire. Qui étaient ces moines dans leur vie quotidienne au fond ? Pour ceux qui connaissent, mais que très peu, ces moines de Tibérine.
En fait, c'était une vie monastique, j'allais dire classique, c'est-à-dire faite de prières, 7 fois par jour, de travail, on travaillait la terre, voilà. Une vie de trappiste, une vie communautaire. Alors, certes, une vie de contemplatif où on se parle peu, disons que le fond de silence est bien là, mais quand même avec ce caractère tout à fait exceptionnel que cette vie trappiste était plantée en terre d'Algérie, donc avec des voisins musulmans tout autour, et ça, eh bien, ça lui a donné une couleur, et on le sent, ça a donné une chaleur, une émulation spirituelle, c'était d'ailleurs leur manière de se présenter, hein, haute. Parmi un peuple musulman, hein, on cherche à donner ce témoignage de paix à travers un respect mutuel et une émulation spirituelle.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'était peut-être la vocation de cette communauté en terre musulmane, le charisme de ces frères moines en terre musulmane, c'est aller à la rencontre de celui qui est différent de moi.
Ils se présentaient comme des priants parmi d'autres priants. Donc oui, avec cette soif finalement d'aller à la rencontre de l'autre, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il y a eu une évolution depuis la fondation en 1938 jusqu'en 1996. Il y a eu une évolution portée aussi par les frères qui ont incarné cette communauté au fil du temps, et particulièrement frère Christian de Chergé qui a donné une réelle inflexion dans ce mouvement de rencontre, d'aller à la rencontre et de se nourrir aussi de cette foi de l'autre, de se laisser interpeller, pas seulement par la voix du muezzin.
Au fond, de se laisser désarmer par l'autre, parfois.
En fait, de se laisser nourrir d'abord, oui. Nourrir par la foi de l'autre, par sa manière de l'exprimer. Quand on travaille côte à côte au jardin, eh bien, voilà, il y a des choses qui se partagent. Et c'est ça qui, finalement, faisait le quotidien de ces moines. Tout ce partage qu'un côte à côte, qu'un travail en commun, finalement, permettait. Et partage de perles, au fond, hein. Et toutes ces perles qu'on pouvait entendre au fil du quotidien, on les retrouve dans un journal intime, celui de frère Christophe, par exemple. Plein de petites phrases de Mohamed, de Moussa, voilà, cueillies et recueillies dans un cœur pour en faire finalement son miel et continuer notre chemin de chrétien et de chrétien communiant finalement à ce peuple.
Alors, leur décision de rester malgré les menaces, acte de foi, de résistance ou de fidélité ?
Mais je crois qu'on peut presque dire tout ça, en fait. Un acte de résistance à la violence qui voulait séparer les personnes les unes des autres, infiltrer la peur dans ce quotidien-là qui était un quotidien d'alliance. Ils sont restés au nom d'une fidélité, fidélité à Dieu, mais aussi fidélité à ce peuple, à ses voisins qui leur réclamaient de rester. Restez, sinon vous allez nous priver de votre espérance. Donc, voilà, et on ne quitte pas un ami qui est dans la panade, on ne quitte pas un ami qui est dans le besoin. Donc c'est tout ça qui est venu finalement forger cette décision de rester, une décision courageuse. Puisqu'évidemment, la violence s'est rapprochée plusieurs reprises.
Héroïque.
C'est la grâce donnée en chemin.
Un début de signe de sainteté de ces moines trappistes.
C'est la grâce.
En prenant la décision de rester. Derrière, on peut noter peut-être acte, je le disais, de résistance, de foi, de fidélité, de courage.
L'héroïsme, ça me fait toujours un peu peur.
Le courage de l'amour.
Frère Michel, il dit... Oh,
ça vous fait un petit peu peur.
Pardon ?
Oui.
Frère Michel... Il dit martyr, c'est un mot tellement ambigu. En fait, on ne souhaite pas devenir des martyrs, on veut simplement rester auprès de ceux que nous aimons, de ceux avec lesquels nous sommes liés. Et puis, il disait ceci, je n'ai rien d'un héros, je suis un zéro, j'ai tout d'un zéro. Donc, vous voyez l'humilité qui habitait ces hommes. Donc, en fait, leur propos de vie... Certes, à nous paraît tout à fait héroïque, mais eux, c'est un au jour le jour qu'ils ont donné leur vie. Nous voyons, nous, la photo finish, entre guillemets, c'est-à-dire une vie donnée, cueillie, mais ils l'ont vécue au jour le jour dans le courage du coude à coude, voilà, de ce martyr blanc, au fond, qui fait qu'on donne sa vie chaque jour, un jour après l'autre. Et puis, un jour, eh bien, elle nous est demandée, et pour eux, au fond, c'était une logique de rester. Ils sont tous rentrés en France quelques mois avant leur enlèvement. Et aucun n'a voulu rester, malgré évidemment la demande de leurs proches. C'est dire le lien qui les attachait à leurs frères. Ils avaient tous peur que quelque chose arrive pendant qu'ils étaient rentrés en France. Donc, ils se sont dépêchés de rentrer, tous. Et puis, surtout que, voilà, on voulait être ensemble. Et ça, c'est le mot-clé pour comprendre ce témoignage, ensemble. Un mot-clé pour comprendre le témoignage des moines de Tibérine et des 19 dans leur ensemble. Être avec.
Donc être avec, à côté, avec voilà. Le frère.
Voilà.
Ah oui, qu'il est bon de vivre ensemble en frère. C'est très biblique, hein, entre les psaumes et puis les paroles. Aimez-vous les uns les autres.
La vie monastique n'est pas un long fleuve tranquille. On a aussi l'épreuve de ça. C'était pas simple. Ça relève quand même du combat, hein, de vivre aussi sous cette pression. Mais en même temps, et c'est documenté, c'est ça qui est extraordinaire et que j'ai sous les yeux tous les jours, c'est vraiment la vie au quotidien et la grâce au quotidien. Hein, même avec ce frottement communautaire, puisqu'ils étaient tous extrêmement différents, d'origine sociale différente, de théologie différente.
D'études, de personnalité, de caractère, on imagine bien.
Absolument. Et on se demande comment ces hommes ont pu vivre ensemble. Et en même temps, voilà, on a senti comme cette douceur qui s'est insinuée peu à peu. Et là aussi, c'est documenté dans les écrits, on sent une douceur s'insinuer, qui est d'ailleurs mentionnée dans le film Des hommes et des dieux. Hein. On a ce climat de plus en plus doux, de plus en plus fraternel, qui fait que ces hommes sont réellement devenus des hommes désarmés et désarmants. Si on se souvient de ce face-à-face entre Christian de Chergé et le chef de guerre qui vient en cette nuit de Noël 93, c'est ça, c'est une paix désarmante. Et là, on a en écho les mots de notre pape Léon XIV.
C'est tout un enseignement. Ces vies données, ces vies offertes, ces textes que vous travaillez, c'est un cadeau pour vous. Permettez-moi, Marie-Dominique Minassian, vous avez au fond ce privilège d'accéder aussi à des textes, de travailler, de méditer. Oui. Ces textes vous nourrissent pour vous-même. Vous êtes docteur en théologie et puis vous êtes une scientifique. C'est que du bonus, que des cadeaux, que des trésors.
C'est aussi une exigence. C'est ça et c'est une exigence. Et vivre à la hauteur de ce témoignage-là, c'est recevoir finalement en soi cet appel permanent à vivre plus, à vivre mieux, à entrer dans l'exigence de l'amour, de la fraternité sans filtre. On ne choisit pas, on choisit ses amis, mais ses frères et ses sœurs, on ne les choisit pas. Et c'est bien cette vocation-là, la vocation à la fraternité, qui nous est désignée ici.
On arrive à la fin de cette première partie dans ce Vivante Église. Marie-Dominique Minassian, docteur en théologie, et puis on évoque avec vous, peut-être pas tous les martyrs, une partie, mais on va revenir aussi, et vous allez aussi dire quelques mots sur ces 6 femmes religieuses qui ont vécu aussi ce martyr. Vous restez avec nous le temps d'une pause musicale et on se retrouve juste après. Merci.
Quelle existence singulière que celle de ces moines d'Algérie, vie de silence et de prière, de solitude et puis d'oubli. Mais elle continue d'éclairer les 7 bougies de Tibérine, elles continueront de briller sur nos sommets. Notre-Dame de la place, du grand silence et du soleil, obtenez-nous un peu la grâce de ne vouloir que l'essentiel. Elles continueront d'éclairer. Moines cisterciens anonymes, des Guebelles ou de Soligny, présence d'un Christ si intime, d'un Christ appel, d'un Christ ami. Elles continueront d'éclairer les 7 bougies de Tibérine aux 4 coins du monde entier et bien plus haut. Notre-Dame de la place, des grands sommets, de la merveille, des grands déserts, des grands espaces, là où se cache l'essentiel. Restés bravant le pire, eux les 7 moines d'Algérie, ils sont partis en vrais martyrs, ils ont offert leur sang, leur vie. Elles continueront d'éclairer les 7 bougies de Tibérine pour féconder, pour irriguer et nos déserts et nos collines. Notre-Dame de l'Atlas, de la rencontre universelle, obtenez-nous le don, la grâce d'être enfin signe de l'essentiel.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite et retour dans ce Vivante Église du jour avec Marie-Dominique Minassian, docteur en théologie. Dans la première partie, nous avons pu découvrir un peu les 7 moines de Tibérine. Et j'aimerais maintenant un peu élargir ce regard aux 12 autres martyrs d'Algérie, mais aussi en lien avec l'actualité et l'actualité du pardon. Marie-Dominique, qu'est-ce qui unit profondément ces 19 témoins, ces 19 martyrs, malgré des parcours bien sûr très différents? Donc vous pourrez effectivement évoquer parmi ces 19 martyrs ces 6 femmes, ces 6 religieuses. Qu'est-ce qui les unit tous, à chacun?
En fait, juste avant la béatification, Monseigneur Defarge, qui était alors archevêque d'Alger, avait écrit une lettre pastorale à ses diocésains, justement pour les mettre en mouvement. Et il avait mentionné ceci. En fait, quoi de commun entre tous, hein, de 8 congrégations différentes? On a parmi ces 19 un évêque, on a 7 moines, et puis on a des frères et sœurs apostoliques. Et eh bien, ce qu'il avait mentionné, je crois que c'est très vrai, c'est ce lien d'alliance avec le peuple, en fait. Et puis, ce qui les relie entre eux, et j'aime à le rappeler, c'est que tous allaient en retraite à Tibirine. Tous passaient des temps de retraite à Tibirine. Tibirine, c'était le lieu où on allait se faire du bien.
C'était un oasis de paix.
Exactement.
Voilà, de ressourcement.
Mais oui, et à tout point de vue d'ailleurs, hein, certains me citent les frites de frère Luc, qui était non seulement médecin, mais aussi le cuisinier de la communauté, donc il cuisinait pour tout le monde. Voilà, le lieu en lui-même est d'une beauté extrême. Les rencontres qu'on pouvait y faire, bref, on venait se faire du bien à Tibirine. Et vice-versa, c'est-à-dire que les frères se nourrissaient aussi de cette présence-là. Et d'ailleurs, quand la dernière année, l'année 95, eh bien, c'était si difficile de rejoindre Tibirine parce que les routes étaient dangereuses, il y avait très très peu d'hôtes. Et on sent que les frères souffrent qu'il y ait si peu d'hôtes qui viennent partager leurs prières. Et en même temps, et ça c'est très beau, ils disent, mais au fond, dans chacune de nos Eucharisties, eh bien, notre chapelle était pleine, pleine de tous ceux qui sont dans notre cœur. C'est beau ça.
Ah oui, c'est beau. La béatification de 2018, qu'est-ce qu'elle a signifié pour l'Église et en particulier pour l'Algérie, Marie-Dominique?
Bien, je crois que c'était, même si le mot était inconnu, je crois que cette béatification, en tout cas pour les musulmans, ça veut rien dire, béatification, puisque c'était une première dans l'Église que ça se passe en terre d'islam. Donc ça, c'était déjà un signe fort. Et ensuite, il y avait l'idée qu'on pouvait revenir sur cette période et en faire un signe lumineux. C'est dramatique, 100 000, 200 000 victimes. Voilà, avec cette affaire des moines de Tibirine dont on ne connaît pas le fin mot. Mais le fin mot reste ce mot béatification qui rime désormais avec le mot fraternité. Et en fait, c'est ça le message principal. C'est une fraternité qui s'est donnée, que chacun a vécu. Les femmes, d'ailleurs, étaient très proches des jeunes femmes musulmanes à travers une école de broderie, notamment au service de la ville d'Alger. Ça, c'est beau, les deux sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Ou bien les sœurs Augustines dans un hôpital, ou bien dans une bibliothèque comme sœur Paul-Hélène. Voilà, en fait, tout le monde a été cueilli sur... soit sur le chemin de l'Eucharistie, soit sur le lieu de son service. Mais donc, il y a ce message de « on est là pour vous ». Et puis, le fait que ça se passe à Oran, c'était aussi souligner que, voilà, il y a ces 19 martyrs, mais on a célébré tous les autres. Sur la flamme qui présentait les 19 visages, eh bien, il y avait tous ces prénoms algériens qui, au fond, faisaient mémoire de toutes ces victimes. S'en mêler avec ce dernier assassinat de Mgr Clavery, s'en mêler avec le jeune Mohamed, son jeune ami, mort dans le même attentat.
Et vous en parlez, c'est relaté aussi dans cet ouvrage.
Oui, ouais. Tout à fait. Donc il y a quelque chose dans cette célébration qui a été sur l'esplanade donc de la basilique Santa Cruz, l'esplanade du vivre ensemble.
Vous y étiez?
Oui. J'y étais, oui. Absolument.
C'est un moment particulier,
inoubliable,
intense.
Ouais. Inoubliable. Ah, ouais. Ce climat de fraternité était palpable. Vraiment palpable. Et puis, c'est émouvant parce que c'était en présence des familles, c'était qui n'avaient, pour certaines, pas pu faire le deuil, pas pu faire le voyage à l'époque. Hein, quand il y a eu les enterrements, évidemment, le Quai d'Orsay déconseillait de faire le voyage. Certaines l'ont fait malgré tout, mais pas toutes. Et puis, il y avait trois générations. Voilà, les frères et sœurs, les neveux et nièces, et puis les enfants des neveux et nièces. C'était très beau, cette célébration. Il y avait toutes les autorités civiles qui étaient présentes. Il y avait ces imams, ce geste de paix que nous avons partagé. Donc oui, c'est vrai qu'en repartant de l'aéroport d'Alger, les douaniers nous disaient « Vous étiez à la béatification ?»
Ah oui.
C'était beau, nous ont-ils dit. Ben voilà, je crois que c'était ça. Et la grâce continue.
Alors au fond, j'ai presque envie de dire que ce moment intense de béatification est un moment porté par la grâce.
Un moment de grâce qui produit de la grâce et continue de produire de la grâce, parce qu'une béatification, c'est un événement d'Église. C'est à destination, et le pape François nous avait adressé son message, il avait dit... Voilà, nous voulons dresser dans le ciel algérien un arc-en-ciel, un message de fraternité. Et il est en train de nous arriver. On est en train de lui donner un contenu. On est en train de raconter ce récit, au fond, à travers tous ces livres.
Alors, des livres,
on donne accès.
Des livres, vous en avez encore. Hein. Je crois que vous êtes aussi en projet, encore d'écriture. Le travail n'est pas fini. Il y a une abondance, une quantité de textes, d'informations que vous préparez.
Tout à fait. On estime à peu près 28 volumes, la totalité de la collection.
Alors, quel est le secret pour un tel travail? C'est toute une équipe autour de vous. On imagine bien que vous n'êtes pas toute seule.
Voilà. Ouais, donc, c'est la passion, vous vous en doutez. C'est la passion, c'est le fait eh bien, de sentir aussi combien, quand on rencontre ce message, eh bien, on y reçoit un encouragement pour notre propre vie. Et c'est ça qui me donne l'urgence, eh bien, de travailler.
Alors c'est intéressant, permettez-moi, je rebondis sur l'urgence. On parle de martyrs, vous venez de parler d'urgence. Il y a une urgence planétaire aujourd'hui pour le monde. Le sang est versé, le feu est allumé un peu de partout. Le monde est sombre, confus. On est un peu en état d'alerte guerre. Que nous disent ces martyrs 30 ans après, puisque nous allons bientôt fêter ce 30e anniversaire de ces 19 martyrs d'Algérie. Pouvez-vous avoir une lecture actuelle?
La lecture actuelle est très facile. Il y a 30 ans, le monde était en feu. Au même moment, nous avions le génocide du Rwanda, nous avions la guerre du Golfe, nous avions la guerre de Yougoslavie. Enfin, le monde était... Et ils vivaient en profonde communion avec tous ces drames, eux-mêmes vivant le drame. Donc, non seulement ça n'a pas entamé leur capacité de vivre en communion, ils ne se sont pas repliés sur eux-mêmes, au contraire, ils ont ouvert tout grand les portes de l'intercession, les portes de leur cœur. Ils ont vécu avec encore plus d'intensité leur vie de moine, à l'écoute d'une parole, dans une vie fraternelle exigeante, et puis avec cette mission permanente d'être pour leurs voisins. D'une manière ou d'une autre. Donc en fait, le message, il est le suivant. C'est que nous devons vivre encore plus intensément l'Évangile qui nous appelle à être des frères et sœurs. C'est de nouveau ce message du pape François. Aujourd'hui, et c'était l'urgence qu'il rappelait, notamment dans son document signé avec le CHIR, de l'université d'Al-Azhar, le document sur la fraternité humaine, universelle, il disait, eh bien, soit nous sommes frères, soit nous nous détruisons. Et les frères de Tibirine nous rappelaient ça. Et ils le faisaient d'une manière, j'allais dire, au quotidien. Ils appelaient les militaires les frères de la plaine. Ouais. Et puis ils appelaient les islamistes cachés dans les montagnes, qu'ils avaient sous les yeux, les frères de la montagne. Tous frères en quelque sorte. Et ils ont finalement réussi ce pari, non pas de la neutralité, mais de l'engagement fraternel et finalement d'une incarnation de cette fraternité, y compris ce fameux soir de Noël où le groupe armé est entré dans le monastère.
Alors,
en armes.
On peut entendre qu'au fond, pour eux, toute initiative, ils étaient portés par la prière intense, au fond, au désert, à l'écoute du Saint-Esprit, qui montre, vous avez parlé d'exigence de vivre cette fraternité qui demande une dépossession, finalement, d'être soi-même. On imagine bien vous connaissez les écrits, vous connaissez les textes, vous fréquentez ses compagnons à travers aussi ce beau travail, l'exigence aussi individuellement pour chacun de ces martyrs, ces 19 martyrs, l'exigence aussi intérieure de prendre soin de ce chemin intérieur. Oui. Au fond, pour tous les frères, pour l'humanité. Ils se sont offerts, ils se sont donnés. Oh, c'est un témoignage pour toute l'humanité aujourd'hui. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Dominique ?
Oui, c'est...
Le témoignage est planétaire de ce qui a été vécu en 96.
Le témoignage est très simple. En fait, les moines rappellent dans la vie de l'Église l'essentiel de la vie chrétienne, c'est-à-dire vivre de l'Évangile. Voilà, vivre de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire
aujourd'hui ? L'exigence de l'Évangile.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ce que moi j'ai appris au fil des années dans ce compagnonnage, c'est que c'est peu à peu apprendre à intégrer la mort. Pour le dire autrement, nous vivons dans une société qui évacue la mort. Au contraire, nous sommes des baptisés. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Mais ne passons pas trop vite sur la mort. Bien sûr qu'il y a une mort à nous-mêmes, une mort à notre égoïsme, pour pouvoir entrer réellement dans le projet de Dieu qui est de nous donner les uns aux autres pour la croissance des uns et des autres. Et donc, cette communauté, pour employer une formule de Christian de Cherger, vivait en état de mort dépassée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vivaient depuis l'autre rive, en fait. Ils étaient dégagés du souci d'eux-mêmes pour entrer réellement dans cet appel qui, effectivement, incluait une mort possible. Ils ne l'ont pas cherché.
Important, est-ce que vous soulignez, ils ne sont pas allés demander le martyr pour le martyr.
Non, bien sûr que non. Et aucun d'eux, nous parlions des femmes tout à l'heure, non plus. Est-ce que ça les a exonérés de peur ? Bien sûr que non. Bien sûr que la chair tremble à cette éventualité. Mais qu'est-ce qui est le plus fort ? Ce qui est le plus fort, c'est l'amour. L'amour, le service des autres, voilà, on se serre les coudes, on est ensemble.
Ah, c'est tout l'Évangile, mais on en revient, permettez-moi, mais dans cette exigence de la fraternité, de vivre en frères et sœurs, avec ce prochain qui est parfois l'étranger. L'étranger, c'est aussi notre actualité, on n'a pas forcément le temps de l'aborder, mais cet étranger qui peut aussi défrayer aussi la chronique dans les médias, cet étranger qui peut prendre aussi parfois beaucoup de place ou trop de place, cet étranger qui fait peur, au fond.
En fait...
Qui semble prendre... la place. Mmh.
En fait, normalement, pour le disciple de l'Évangile, nul n'est étranger. Et donc, c'est tout ce déplacement que nous sommes amenés à vivre, à faire. Les moines l'ont fait en allant vivre à l'étranger.
Ils ont fait ce déplacement.
Ils ont fait ce déplacement. Alors, comment dire, dans une première phase de la présence chrétienne en Algérie, on est arrivé avec l'esprit colonisateur. C'était la première présence au milieu du XIXe siècle, avec cette devise du premier monastère de Staweli, qui dit tout, par l'épée, la croix et la charrue. Voilà. Et ce monastère a été fermé, et quand Tibérine a été fondée par un groupe de moines yougoslaves, il y a eu... une évolution aussi dans le temps, et on retrouve finalement la toute dernière devise du monastère, un signe sur la montagne. Vous voyez, l'esprit de présence est tout différent. Un signe sur la montagne, c'est humble, un signe. Ça montre un autre. Ça montre un autre. Alors voilà, Tibérine, personne ne connaissait cette communauté avant leur mort, et il a fallu que cette mort nous les fasse connaître, et depuis, nous connaissons... comment dire, un déferlement d'écrits, de grâces.
De témoignages, que les témoignages arrivent.
Que nous rassemblons, que nous recueillons patiemment, aussi pour la mémoire de l'Église universelle, puisque je le disais tout à l'heure, une béatification, c'est un événement d'Église, ça veut dire que c'est pour un transfert pour l'Église universelle. Et aujourd'hui, nous écoutons les échos, en Argentine, je travaille avec une professeure de Buenos Aires sur la poésie de Frère Christophe. nous écoutons les échos, nous allons écouter les échos l'année prochaine pour le 30e anniversaire lors d'un colloque à Oxford, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis. Bref, dans nos colloques académiques, nous commençons à entendre réellement cette réception universelle de ce message. Nous n'avons pas fini.
Quel héritage, quel héritage. Alors, la place du pardon, quelle est la place du pardon qui occupe un peu cet héritage des moines de Tibérine et puis de cette histoire que nous connaissons depuis 30 ans, Marie-Dominique, et ça sera un petit peu à la fin de cette rencontre de Vivante Église, sur cette tonalité aussi, l'amour plus fort, l'amour plus grand, et cet amour va jusqu'à l'extrême, pardon, et le Christ lui-même, en se donnant, en se livrant sur la croix, a montré aussi cet exemple. Ils se sont donnés, ils se sont livrés, ils se sont abandonnés. Alors qu'en est-il de cet héritage des moines dans cette dimension du pardon? Et je pense à ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui, qui vous ont découvert, et que j'invite aussi à découvrir aussi tous les écrits, à devenir lecteur. On vous écoute.
Je crois que je vous conseillerais de relire ce texte. C'est le tout premier qui a été publié au lendemain de l'annonce de la mort des frères, donc dans le journal La Croix, le 23 mai 1996, a été publié « Décision de la famille de Chergé, son testament », le testament de frère Christian. C'est un texte absolument bouleversant et qui, justement, exprime ce pardon donné d'avance. Hein, que ma famille, mon église, tout le monde sache bien que cette vie, voilà, ils ne me l'ont pas arrachée, elle était donnée d'avance à ce pays. Puis pour toi aussi, je le veux, ce merci, hein, cet ami qui ne saura pas ce que tu fais, l'ami de la dernière minute, qui, voilà, toi qui ne sauras pas ce que tu vas faire, eh bien, je le veux pour toi aussi, ce merci. Je crois que tout est dit dans ce testament et j'inviterai donc vos auditeurs à le reprendre. C'est une clé de lecture du témoignage des 7, du témoignage des 19 et de toute cette église d'Algérie qui nous fait signe pour que nous retrouvions ce regard fraternel sur tout un chacun, même si c'est difficile, même si c'est pour encore un petit peu de temps difficile à vivre. Nous devons vraiment entrer dans ce combat, cette ascèse, ce regard doux sur les êtres qui nous entourent. Et finalement, aucune tendresse humaine n'est superflue. Au contraire, aujourd'hui, elle est d'une grande urgence.
Merci infiniment Marie-Dominique Minassian. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie et puis chercheuse à l'université de Fribourg. Alors vous continuez vos recherches, vos écrits aussi, et je conseille donc à nos auditeurs de devenir curieux, hein, de se nourrir aussi de ces écrits. Vous avez aussi ce très beau volume qui est le numéro 6. Il y a aussi le projet de continuer dans l'écriture d'un volume 7 et 8, Heureux ceux qui cherchent la paix, Vivre désarmé, un livre qui est paru en 2025. Et on peut peut-être terminer très vite avec un extrait de cet ouvrage, Marie-Dominique Minassian. Merci et peut-être à une prochaine fois. Je vous écoute.
La paix n'est pas absence de guerre, mais plénitude d'humanité. Le silence n'est pas absence de parole, mais plénitude du verbe, d'écoute. La nuit n'est pas absence de lumière, mais plénitude de présence.